Cours de philosophie première du Père Marie-Dominique Philippe, le 1er décembre 1999 à Saint-Jodard.
Malgré le très beau temps, c'est peut-être à cause de ça, parce qu'il y a beaucoup de monde sur la route. Dans le dernier cours, vous avez, je crois, montré une relation entre, une sorte d'analogie, c'est bien une relation, entre la conclusion du cercle, c'est-à-dire le moi-conscience, et le sujet, et la conclusion d'Aristote dans les catégories, c'est-à-dire la substance sujet et la substance attribut principal, homme, pierre. Pouvez-vous expliciter cela, surtout, qu'est-ce que c'est que le lien entre l'attribut principal homme et le moi-conscience. Oui, vous voyez, les deux voies, c'est pour ça que j'ai pris ça exprès, puisque le Saint-Père nous demande, un peu à cause d'Edith Stein, et puis lui-même, je crois que c'est son problème, en tant qu'il était quelqu'un qui entrait très profondément dans la phénoménologie, de voir comment on peut essayer de comprendre ces deux voies. La voie d'intériorité, la voie réaliste. Je ne dis pas, vous voyez, la voie d'intériorité, la voie d'extériorité. Parce que ce ne serait pas vrai. La voie d'Aristote n'est pas une voie d'extériorité. Mais c'est une voie réaliste, tandis que la voie d'immanence dans l'intériorité est une voie du vécu. Qu'est-ce que c'est que le vécu intellectuel, pas le vécu affectif, le vécu intellectuel. Le vécu intellectuel aboutit bien à ce moi conscient qui progresse toujours, et le sujet auquel est attribuée toute l'activité du moi conscient. Je pense ce que peut être la substance, je me place du côté du cercle, avec, n'oubliez jamais, l'upoké. L'upoké, c'est-à-dire la mise entre parenthèses. Je mets entre parenthèses l'être. Étant donné que l'être n'est jamais la conscience, c'est ça qu'il faut comprendre, hein, c'est que la conscience doit tout prendre. Tout est vu dans cette voie d'intériorité, d'immanence, du vécu. La conscience. J'ai conscience de penser maintenant. J'ai conscience d'avoir quitté la voiture qui me conduisait et d'être ici. Et j'ai conscience de cette objection, de cette question plus exactement, pour préciser, j'ai conscience. J'ai conscience, puisque Husserl n'est pas bête, n'oubliez pas, je vous l'ai dit la dernière fois, il a fait son doctorat mathématique. Et c'est par les mathématiques que Husserl aboutit à la philosophie. Les mathématiques ne partent pas du jugement d'existence. Donc, le jugement d'existence est mis en dehors, entre parenthèses. Il ne dit pas abstraction. C'est curieux, c'est intéressant du reste de voir ça. Nous, on parle d'abstraction. Lui, il ne parle pas d'abstraction. Il parle de mise entre parenthèses. La mise entre parenthèses, qu'est-ce que c'est exactement? J'ai vu, je vous l'ai dit, un étudiant à Fribourg qui a fait son doctorat là-dessus. Qu'est-ce que c'est que la mise entre parenthèses? Parce que c'est vrai, au fond, quand quand Husserl dit ça, nous le pensons, nous, en philosophe aristotélicien, réaliste. Qu'est-ce que c'est que la mise entre parenthèses? Pour moi, la mise entre parenthèses, c'est une séparation qu'on fait entre ceci et ceci. Je mets entre parenthèses « et ». Et c'est pour cela que ceci est et ceci est la même chose pour Husserl. Puisque je mets « et » entre parenthèses, donc je ne veux pas le considérer. Et c'est, au fond, je ne veux pas le considérer, je crois que c'est exactement ça. Je ne veux pas le considérer, je ne le pense pas, je le mets à côté. C'est pas mon affaire. Ça ne me regarde pas. Oui. On peut très bien faire ça. Hein. Je peux mettre entre parenthèses le lien affectif que j'ai avec quelqu'un en disant maintenant je traite la question d'un point de vue purement mathématique, d'un point de vue purement philosophique, et je fais abstraction de tout sentiment affectif. Je mets entre parenthèses mon affectivité. Je mets entre parenthèses l'être. Mais je crois que c'est ça pour lui. C'est au fond l'abstraction mathématique qu'on poursuit en philosophie, où on ne s'occupe pas immédiatement du réel en mathématiques. On s'occupe de l'intelligibilité de l'être mathématique. Il y a un article très bien du père Gérard Dilaurier sur l'être mathématique. Qu'est-ce que c'est que l'être mathématique? Il écrit ça dans le temps. Ceux qui s'intéressent à ça, je pourrais leur donner la référence. Ils peuvent la chercher du reste dans ce que j'ai écrit sur la métaphysique. C'est intéressant de savoir qu'est-ce que c'est que l'être mathématique. L'être mathématique n'est pas l'être réel. C'est l'être pensé par le mathématicien. Parce que l'être mathématique n'existe pas dans la réalité. Il existe dans le cerveau du mathématicien. Et il a un fondement réel, c'est sûr qu'il a un fondement réel, mais il n'existe formellement que dans la pensée du mathématicien. Et donc cet être mathématique met entre parenthèses l'exister. L'exister ne regarde pas immédiatement le mathématicien. Le mathématicien fera ses mathématiques, puis après, il prendra son repas. Et quand il prendra sa soupe, il prendra le bifteck, il prendra la purée, et il dira, mais c'est existant, ça existe, c'est bien évident. Et c'est pas des mathématiques. Il y a deux mondes différents. Il y a le monde du mathématicien, et le monde réel, existant, mis entre parenthèses, ce monde réel. Je ne veux pas le savoir, je veux rester dans la pureté phénoménologique. Vous voyez, dans la pureté phénoménologique, je reste dans la pureté phénoménologique. Et la pureté phénoménologique implique pour Husserl la mise entre parenthèses de l'être. Parce que l'être mathématique n'existe pas. Oui, ça c'est très important de bien comprendre, parce que c'est Husserl qui le dit le mieux. Les autres ne le disent pas de la même façon, tandis que Husserl le dit mieux. Alors, c'est intéressant de savoir qu'Edith Stein était, elle, husserlienne. Tellement bien, d'une façon tellement intelligente, que Husserl l'a choisie pour être son assistante. Et elle a été tout de suite à l'université assistante d'Husserl. Donc elle est partie de là pour redécouvrir le réel. Ça, c'est des questions très très délicates, positions différentes d'Aristote à l'égard des mathématiques et positions différentes de Platon à l'égard des mathématiques. Et c'est là où on voit comment Husserl, au fond, est beaucoup plus proche de Platon que d'Aristote. Et la position mathématique est entre les deux, et c'est ça qui est intéressant. On voit que la position mathématique pour Husserl est assez analogue à celle de Platon. Il faut passer par les mathématiques pour découvrir l'être en soi, dans toute sa pureté, pour découvrir le bien en soi, pour découvrir l'homme en soi. Qu'est-ce que c'est que l'homme en soi? L'homme en soi, c'est ma conscience de moi. Alors, vous voyez, c'est là où on voit le lien entre l'homme. Pierre est un homme. Qu'est-ce que c'est que homme comparativement à Pierre? Alors ici, dans la perspective d'Aristote, dans notre perspective à nous, qu'est-ce que c'est que homme par rapport à Pierre? Pierre, c'est une réalité qui existe. Pierre, c'est celui-là. Pierre, c'est celui-là. Ou Gertrude, c'est celle-là. Tu vois, c'est Pierre. Alors, c'est une réalité qui, au point de vue logique, joue ce rôle d'être le sujet. Le sujet de toutes les attributions. Pierre est intelligent. Pierre est bon. Pierre n'est pas menteur. Pierre est un homme. Alors, que représente homme par rapport à Pierre? Ça représente l'attribut essentiel. Vous ne pouvez pas trouver un attribut plus essentiel que homme par rapport à Pierre. Pourquoi? Parce que homme exprime une réalité qui a un corps et une réalité qui a une âme spirituelle. Dans homme, point de vue logique, homme précise une espèce d'animal particulier, génériquement, point de vue générique, l'homme est un animal. Il y a quelque chose de commun avec tous les animaux. Et cependant, il est différent, différent spécifique, l'âme raisonnable. Donc vous avez genre et différent spécifique. Et ça donne la définition. Une définition est faite par le genre et la différence spécifique. Et vous dites homme. Et quand vous dites homme, vous exprimez quelque chose de précis, de très précis. Vous exprimez le genre animal. L'homme est commun avec tous les animaux. Quelque chose de commun. C'est un vivant. Un vivant de vie végétative. C'est-à-dire un vivant de vie végétative et un vivant de vie végétative assez évolué parce qu'il bouge, il marche. Il ne vole pas, mais on a l'analogue du vol, on marche. Alors, on ne nous a pas laissé choisir, tant mieux, parce qu'alors on aurait deux catégories d'hommes, les hommes qui volent et les vols qui marchent. Alors, comme la nature ne nous donne pas, l'art peut nous le donner. Alors, c'était un aviateur, un pilote, qui m'avait dit avec les derniers avions, on est vraiment transporté d'une manière telle qu'il y a quelque chose de nouveau dans l'homme. Il disait ça très sérieusement, c'était très intéressant. Et tant qu'on n'a pas fait cette expérience, il m'avait offert de la faire du reste, très gentiment. J'ai dit, écoutez, avec mon âge, je crois que les médecins diraient que pour le cœur, c'est peut-être un peu dangereux de faire cette sorte d'expérience. Mais j'étais prêt à demander si je pouvais le faire ou pas. Prudemment, il faut être prudent, on n'a pas le droit de dire qu'on a toujours 20 ans. Non, on ne les a pas toujours. Ça s'est passé parce qu'on est un animal. C'est l'animal qui vieillit. Et le cœur, il est du côté de l'animal. Hein. Le cœur, organe, pas le cœur spirituel, mais le cœur organe, et du côté de l'animal. Alors l'animal vieillit, l'animal est corruptible, l'animal peut mourir, alors que la différence spécifique, esprit, rationnel, il ne peut pas mourir, il est immortel. Il ne vieillit pas. il vieillit dans son exercice. Parce qu'il a besoin de la mémoire, il a besoin du corps, il a besoin de l'imagination pour s'exercer. Donc alors il vieillit du côté de l'exercice, mais pas du côté de sa spécification. Il ne vieillit pas de ce côté-là. Et c'est très net que homme, par rapport à pierre, c'est l'attribut essentiel. Quelle différence y a-t-il entre pierre et homme ? C'est que pierre, c'est le sujet existant, et homme, c'est cet attribut pris formellement qui distingue l'animal qui est dans pierre avec les autres animaux, pour montrer que cet animal qui est en pierre est un animal très évolué qui atteint le spirituel par sa différence spécifique, parce qu'il est raisonnable, animal raisonnable, animal qui a la capacité de connaître. Ça, nous pouvons tous comprendre ça, j'espère. Vous voyez, c'est la logique qui définit. Les bonnes définitions sont logiques, elles ne sont pas métaphysiques, c'est logique. Genre et différence spécifique. C'est pour ça que je prends exprès genre et différence spécifique, sujet et attribut. Parce que c'est ce qu'il y a de plus proche, la logique, c'est ce qu'il y a de plus proche de la phénoménologie. Puisque l'être est mis entre parenthèses. Alors, ce qui serait très intéressant, c'est de voir la différence entre l'être logique et l'être phénoménologique. Là, il y a une recherche très intéressante à faire, que vous devez faire, même si vous n'y arrivez pas tout de suite, ça n'a pas d'importance. Vous voyez, mettez être mathématique, être, votre point de vue phénoménologique, l'être logique, l'être métaphysique. Là, vous voyez, tout est confusion, puisqu'on parle de l'être tout le temps. Et on ne précise pas. Alors, c'est très gênant. Parce que, qu'est-ce que Husserl demande de mettre entre parenthèses ? C'est l'être métaphysique. Je crois que c'est l'être métaphysique. Pour lui, dans sa pensée, c'est ça. Parce qu'il fait une nouvelle métaphysique. Il fait une nouvelle philosophie. À la fin de sa vie, à la fin de sa vie, les inédits du Husserl sont à Louvain. La grosse richesse de l'université de Louvain, c'est d'avoir les inédits du Husserl de la fin de sa vie. Alors, ces inédits ont paru progressivement, du moins certains. Ces inédits ont paru dans la revue de Louvain. Je les ai lus parce que ça m'intéressait beaucoup de voir comment la phénoménologie pouvait aboutir chez quelqu'un comme Husserl, qui est sûrement un homme d'une très grande honnêteté, comme beaucoup de mathématiciens, d'une très grande honnêteté, mais d'une honnêteté qui n'est pas du tout l'honnêteté de l'homme moral. C'est très curieux. C'est une honnêteté particulière, c'est une honnêteté mathématique. Il y a là quelque chose qui est très spécial, et qui est intéressant à voir. Avec Husserl, le problème se pose. Vous voyez ? Et c'est très difficile pour un phénoménologue de juger Husserl. Pour Edith Stein, elle est sortie de l'être husserlien pour redécouvrir l'être métaphysique, l'être réel. Et c'est par la foi. C'est par la foi. Ça, je crois très fort que c'est par la foi, c'est pas directement par la philosophie. Parce que je crois que la philosophie n'est pas une sagesse, donc elle ne peut pas se critiquer. Et c'est pour ça que, vous voyez, quelqu'un comme le père Dubarle, entrant à fond dans Husserl, disant, Husserl, on ne peut pas le critiquer. Parce que pour le critiquer, il faudrait être husserlien et critiquer Husserl. C'est pas juste de dire ça. Qui se dit philosophe peut être critiqué par un autre philosophe. Alors Husserl, à la fin de sa vie, découvre dans sa perspective Dieu. Et qu'est-ce que c'est que Dieu pour lui? C'est la valeur suprême. C'est tout le problème des valeurs que Husserl reprend et en découvrant que Dieu, c'est la valeur suprême. L'homme n'est pas la valeur suprême, mais Dieu est la valeur suprême. Alors vous voyez, c'est ça qui est intéressant, parce que la valeur, est-ce que la valeur existe? Posez-vous la question. Qu'est-ce que c'est que la valeur? Saint Thomas parle de la dignité de l'homme. Il ne parle pas de la valeur de l'homme. Tandis que pour Husserl, c'est la valeur. L'homme religieux, c'est un homme qui atteint la valeur suprême et qui vit la valeur suprême. Alors cette valeur suprême qui est Dieu, elle est aussi bien dans l'homme qu'en Dieu. L'homme qui connaît Dieu, l'homme qui adore Dieu, l'homme religieux, atteint la valeur suprême. Et donc, lui-même, il ne dit pas à une dignité suprême, mais à une valeur suprême. La valeur fait le lien entre l'immanence de l'homme et la transcendance de Dieu. Mais la transcendance de Dieu est vue dans la lumière de la valeur humaine. Donc, ce n'est plus la transcendance. Je dis ça entre parenthèses, c'est simplement pour mieux comprendre ce qu'est Husserl au terme de sa vie. Et je crois que c'est à partir de là que Einstein a vu la limite de la philosophie. Parce que le Dieu du chrétien n'est pas une valeur. Le Dieu du chrétien est une personne, une réalité, qui est la réalité suprême. Alors la réalité suprême n'est pas une valeur. La valeur, si vous cherchez bien ce que c'est que la valeur, c'est ce que je pense pour mesurer les qualités des autres. Donc c'est du côté de la cause exemplaire. La valeur, c'est la cause exemplaire. C'est pas la cause finale. C'est la cause exemplaire. Ce qui me permet de mesurer les autres et de par le fait même de comprendre leur valeur, plus ou moins grande. Et la valeur suprême, c'est celle qui ne peut pas être mesurée par quelque chose et qui mesure toutes les autres. Là, il y a quelque chose de juste, mais ce n'est pas Dieu. Dire que Dieu est la valeur suprême, ce n'est pas atteindre Dieu. Parce que la valeur suprême, c'est je la pense. Vous voyez, c'est toujours cette même conception, c'est que, au fond, pour eux, Dieu reste une idée. J'ai l'idée de Dieu. Alors, pouvons-nous avoir l'idée de Dieu? Nous ne pouvons pas avoir l'idée de Dieu. Dieu transcende complètement mon intelligence. Mais je peux affirmer que Dieu existe. Ce que nous nommons Dieu, ce que les traditions religieuses nomment Dieu, je peux affirmer qu'il existe, mais j'en ai pas de concept propre. Je ne saisis pas directement Dieu. Je n'ai des concepts que pour ceux dont je saisis immédiatement l'acuité. Le fondement de tout concept, c'est l'acuité. Alors, je n'ai pas justement l'idée de Dieu. Autrement, je saisirais sa acuité, ce qu'il est, son intelligibilité. Dieu est une intelligibilité qui est identique à son être et qui m'échappe complètement, qui me dépasse complètement. Maintenant que j'ai précisé la différence entre homme et pierre. Pierre, c'est la réalité. Res, la réalité. À quel j'attribue homme? Pour Husserl, la conscience de moi, mon moi conscient, c'est mon moi conscient. La conscience de moi, ça revient au même, c'est identique. C'est ce que je pense dans une attitude réflexive. Dans une attitude réflexive, je peux saisir mon moi. Et ce moi conscient, c'est ce qu'il y a de plus profond en moi. Il ne faut pas aller plus loin. Et le sujet, c'est ce qui reçoit toutes les attributions. Alors vous voyez, il y a un parallélisme entre les deux, assez net. Des deux côtés, et c'est ça qu'il faut bien saisir pour comprendre le raisonnement que nous prenons, des deux côtés, on atteint quelque chose d'ultime. Alors, voyez bien, dans la recherche, qu'est-ce que c'est que l'être ? Nous sommes partis de cela. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Nous voulons connaître la détermination première de ce qui est en tant qu'il est. Si vous quittez cette interrogation-là, là vous ne comprenez rien du tout. Hein. Restez dans cette interrogation. Qu'est-ce qui est la détermination suprême de l'être ? De ce qui est en tant qu'il est. Je suis parti du jugement d'existence. Hein. Ce qui est, et n'importe ce qui est, vous-même. Vous pouvez très bien prendre ça pour être plus proche du ciel. Je prends, je suis. Mais je suis éclairé par ce qui est. Je suis un certain être, jusque le nouvel ordre. Je suis un certain être. Et je suis là en disant je suis un certain être. Je suis en face de l'œcuménisme le plus absolu. Hein, parce que tout ce qui est est. Et je fais partie de cette catégorie suprême, tout ce qui est, tout ce qui existe. Dans ce qui existe, dans ce qui est, qu'est-ce qu'il y a comme détermination première ? Le ti esti, la détermination première. Vous êtes bien d'accord avec ça ? Je prends à ce moment-là la table des catégories aristotélicienne. Tout le monde accepte les catégories d'Aristote. On les interprète différemment, mais tout le monde accepte les catégories d'Aristote. C'est un bien commun philosophique. Qu'est-ce qui est premier dans les déterminations, dans les catégories d'Aristote ? C'est la substance. La substance est considérée l'ousia, la substance, c'est la détermination, ça c'est le langage qui est donné, hein. Je me fie à ce langage, bon, la substance. Or, selon les catégories d'Aristote, la substance, la détermination la plus radicale, puisque toutes les autres déterminations sont relatives à la substance. La substance est ou substance première, égal sujet, Pierre. La substance première, sujet. La substance seconde, c'est homme. Mais c'est peut-être cheval, hein. Peut-être vache. Non, non, puisque l'homme est un être plus déterminé que le cheval. Or, ce que je cherche, c'est la détermination première. Quelle différence y a-t-il entre homme et cheval ? C'est que homme, c'est un cheval rationnel. Eh bien, c'est un cheval rationnel, parce que homme est un animal, et cheval est un animal. J'ai parfaitement le droit de dire ça. Du reste, ça a été inventé, tout ça. Hein. On a montré des hommes liés aux poissons, liés, tous les mythes. C'est très connu. C'est lourd comme poids. L'homme, c'est un cheval rationnel. Et quand vous montez sur un cheval, dites bien ça. Allez, mon petit coco, je suis un cheval rationnel. Et je te conduis. Parce que je suis rationnel. Alors, parce que je suis rationnel, je suis déterminé. Toi, tu ne l'es pas, tu suivrais ton instinct, si je te laissais, tu vois là quelque chose, un chou merveilleux, tu as envie de le manger, de le prendre, tu, ah non, rationnel, on passe au-dessus, on cherche autre chose, on a une détermination. L'homme est un poisson rationnel. Je peux très bien être. J'ai une queue de poisson. Et c'est vrai. Il est une originalité parmi les oies. Je passais l'autre jour à Lens, en Corse, devant un aquarium merveilleux à Nice. Dernier chic, hein, à un point de vue absolu. Mais c'est extraordinaire. On resterait bien une heure en face de ça. Tous ces poissons invraisemblables. Comme un... Alors, on est un poisson rationnel. Parce que l'homme imagine des choses aussi extraordinaires. C'est un poisson rationnel. C'est vrai, et c'est beau de voir ça. Alors, l'homme est donc la détermination, d'un point de vue de l'être, la détermination la plus profonde. Personne n'est déterminé comme homme, aussi bien que homme, personne. Alors je cherche quelle est la première détermination dans l'homme de l'être. Je vois donc, c'est vrai, et ça Aristote l'a bien découvert, hein. Ça fait partie des catégories. Substance première, sujet, substance seconde, homme. Pourquoi substance seconde? Parce que homme est attribué à sujet. Pierre est un homme. Tiens. Pierre et homme. Alors, quelle différence entre Pierre et homme? Vous voyez, quand vous dites Pierre et homme, quelle différence entre les deux? C'est justement que Pierre contient et. Homme ne contient pas et. C'est abusant de voir ça. Et alors on dira dans le langage scolastique que « est copule ». Parce que grâce à l'être, il y a l'union de l'attribut au sujet. Je dis « Pierre est un homme ». Et quand je dis « Pierre est un homme », Pierre absorbe « homme ». Il est « homme ». Pierre est « homme ». Donc l'attribut à l'égard du sujet... font quelque chose d'identique. C'est une réalité. Et pourtant, c'est des distinctes. Quelle distinction entre le sujet et homme? Quelle distinction? C'est que le sujet existe. Homme, il n'existe que dans ma pensée. Vous n'avez jamais vu un homme en soi. Ça, c'est Platon qui dit ça. Oui, séparation entre l'attribut et le sujet. Alors que attribut et sujet s'identifient. Pierre est un homme. Ça, vous pouvez comprendre ça. Et c'est intéressant, c'est les catégories d'Aristote. Après, qu'est-ce qu'il y a? Quantité. Qualité. Je ne les énumère pas parce qu'on vous a fait, on vous a rappelé ça. Hein. Mais toutes sont des déterminations relatives. Le seul attribut absolu, c'est homme. Pierre est homme. Point. Pays. Tandis que quand je dis Pierre est intelligent. Intelligent est relatif à quelque chose de plus radical que l'intelligence, mon âme. Tandis que l'âme, c'est ma substance. La substance est première, c'est l'absolu. Donc, il y a deux absolus. Dans l'ordre des déterminations, hein, dans l'ordre des déterminations, il y a deux absolus. L'absolu sujet, l'absolu attribut. Substance première, substance seconde. Vous voyez tout le temps dans saint Thomas, substance première, substance seconde. C'est ça qui est intéressant aussi. Il faut comprendre que ça sort des catégories. Les catégories, c'est un bien, tout simplement... Comment les catégories sont-elles venues? C'est l'analyse du langage. Analyser un article de journal, n'importe lequel, vous trouverez les 10 catégories. C'est curieux. Faites ça, il faut avoir fait ça une fois dans sa vie, pour que les catégories, on les ait découvertes à la suite d'Aristote. Prenez n'importe quel livre et puis regardez. Et étudier le langage. C'est l'étude du langage. les déterminations de ce qui est. Quand vous dites intelligent, ah, c'est la qualité. Quand vous dites quantité, ah, Pierre, il pèse 110 kilos. C'est une qualité ou c'est un défaut? Je ne sais pas, ça. Je ne l'ai pas éprouvé. Alors, je ne peux pas le dire. Parce que 110 kilos, peser 110 kilos, est-ce que c'est une qualité? Ça fait partie de la quantité, ça. C'est pas parce qu'il pèse 110 kilos qu'il sera plus intelligent. Non. Et c'est pas parce qu'il est intelligent que nécessairement il sera plus petit. Hein? Différence. Aujourd'hui, on est dans les grandeurs d'extension. En Amérique, ils sont tous plus grands. Il y a encore des gens petits. Il n'y a pas de pygmées. Mais il y a des gens plus. Qu'est-ce qu'il y a après? Relations. Et ainsi de suite, tous. Toutes les diverses catégories, donc les neuf catégories, puisque la catégorie substance, toutes les neuf catégories, les neuf déterminations sont relatives à substance. Et la substance est absolue. Donc, quand je cherche, au point de vue philosophique, quelle est la détermination première de l'être? Posez-vous la question. Je vois, en prenant les catégories, puisque ça m'est donné, c'est une donnée qui m'est donnée, je l'utilise, quoi. C'est pas si bête, les catégories. C'est intéressant. Puis-je dire que la première détermination de l'être, c'est le sujet? Puis-je dire que la première détermination de l'être, c'est homme? Du fait même que ces deux existe, c'est pas elle qui est première. Parce que le sujet a une détermination que homme n'a pas. Et homme a une détermination que Pierre, le sujet, n'a pas. Elles sont deux. C'est pas deux jumeaux. Hein. Non. Mais c'est quasi. Sont relatifs l'un à l'autre. Pierre exprime une détermination radicale d'une réalité qui existe, avec son individuation, sa quantité, son existence. C'est un singulier. Le sujet est un singulier. Et c'est bien être et exister que d'être un singulier. L'être existe toujours comme un singulier. Donc c'est bien une détermination de l'être. Que homme n'a pas, homme universel. Donc homme est toujours pensé. Il est dans mon intelligence, homme. Il y a un fondement dans la réalité, mais homme comme homme, distinct du sujet, c'est mon intelligence qui fait ça. Homme est universel, il peut s'attribuer à tous les hommes, à tous ces sujets qui existent. Tandis que sujet, ah, c'est propre de tel homme. C'est cet homme particulier, c'est Pierre. Donc je vois que ni le sujet, ni l'attribut homme peuvent être ce qui est premier dans l'ordre de l'être. C'est impossible. Puisque le sujet n'exprime pas parfaitement ce qui est premier dans l'homme. Est-ce que dans l'universel homme, la signification de homme va plus loin que la signification du sujet ? Et donc exprime quelque chose que le sujet ne dit pas. Je ne peux donc pas dire que la première détermination de l'homme, de l'être, c'est le sujet. Je peux dire que c'est quelque chose de fondamental, quelque chose de premier, mais ce n'est pas la détermination première de l'être. La première détermination de l'être ne peut pas s'arrêter au sujet. et homme est une détermination absolue, c'est vrai, c'est l'attribut absolu. Dans l'ordre de ce qui est pensé, dans l'ordre de ce qui est pensé, dans l'ordre de ce qui est vécu dans mon intelligence, c'est ce qui est le plus fondamental. C'est parce que ça, homme exprime le genre, ce qui est fondamental, la différence spécifique, ce qui est ultime. Donc, dans l'ordre de l'intelligibilité, homme est premier. Or, l'être est intelligible. Donc, l'être, en tant qu'intelligible, ce qui est premier, c'est homme. Mais naître est plus que l'intelligibilité. Je ne peux pas identifier l'être et l'intelligibilité. L'intelligibilité, c'est ce qui est connu. C'est la quiddité. C'est ce que mon intelligence saisit. Mais le jugement, qui est une opération intellectuelle plus parfaite que l'appréhension et ultime, me montre bien que l'intelligibilité n'est pas ce qui est. Il y a une différence entre les deux, entre l'intelligibilité et ce qui est. Ce qui est plus que l'intelligibilité. C'est ce que je saisis dans mon jugement quand je dis « ceci est ». Vous voyez, « ceci est », c'est le sujet. « Ceci », c'est « homme ». C'est la détermination. Et homme peut très bien ne pas exister. Il existe, je suis partie de moi, mais il y a beaucoup d'individus. Je suis un individu parmi tous les hommes. Je ne suis pas l'homme. Il n'y a que Jean-Jacques qui peut dire ça. Regardez-moi, je suis l'homme. C'est ce qu'il dit Jean-Jacques Rousseau. Regardez-moi bien, je suis l'homme. Le seul homme qui pourrait dire ça, là, c'est en tant que croyant. Je dis, c'est Jésus. Il est l'homme de douleur. Attendez, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas regarder votre voisin et dire, tout ce que tu es, je le suis. Donc, tu ne m'intéresses pas. J'ai beaucoup plus que de te regarder, j'ai moi. Et en moi, je te vois. Alors l'autre, qu'est-ce qu'il va dire? Oh, pas du tout, pas du tout. J'ai quelque chose que tu n'as pas. Je suis un individu qui existe et qui dans l'être possède quelque chose que tu n'as pas. Donc homme n'exprime pas toute la détermination de l'être. Vous voyez, l'interrogation, c'est ça qui est important. C'est de comprendre que l'interrogation porte sur la détermination fondamentale de l'être. Je ne peux pas m'arrêter ni au sujet, ni à homme. Si maintenant, je pars du côté de la phénoménologie, du vécu, quel est le premier vécu dans l'ordre de la détermination? Dans l'ordre de la détermination, quel est le premier vécu dans l'ordre de la détermination? C'est homme. C'est ma conscience. J'ai conscience que moi, je suis homme. C'est dans ce sens-là qu'il y a un lien entre homme et moi. Conscience. Il y a un lien très net. Et qu'est-ce qu'il y a au-delà de ma conscience? Quelque chose que je ne connais pas. Sujet. Alors vous comprenez que c'est inversé, c'est ça qui est très curieux et c'est ça qui est intéressant. Dans la perspective aristotélicienne, homme est second. Dans la perspective husserlienne, moi, conscience est premier. Quand je réfléchis sur ce qui est premier, puisque le sujet, oui, le sujet, je l'accepte, mais il ne m'intéresse pas du tout. C'est pas du tout le vécu, c'est n'importe quoi, c'est le sujet. C'est homme, moi, conscience, qui est l'essentiel et qui est premier. Alors c'est intéressant de remarquer cela, que ce qui est second dans ma perspective réaliste devient premier dans la perspective husserlienne. Ah, ça, c'est très important de comprendre ça. Donc, tout est inversé. La question d'ordre. Réfléchissez à ça, parce que ça, c'est très, très important. Ça montre tout de suite la différence entre l'aspect de la phénoménologie husserlienne et l'aspect d'Aristote.